Shalom et bonjour, nous allons continuer notre étude du livre de Vaïkra. Nous sommes à la paracha de Emor, la paracha de la semaine. Une paracha très particulière qui traite de deux sujets a priori totalement différents. D'une part, les règles concernant le comportement des Kohanim, les règles relatives à leur service dans le temple. Et la deuxième partie de la paracha, sauf un petit appendice, traite du calendrier de l'année, des fêtes de l'année. Et est-ce qu'il y aurait un rapport entre ces deux parties? Effectivement, on voit que la paracha est vraiment coupée en deux sections différentes, l'une qui nous parle des lois relatives au Kohanim et l'autre qui nous parle des lois relatives aux jours fériés de l'année. C'est en fait le début de la fin du livre de Vaïkra. On ne peut pas ne pas être frappé par un parallèle dans le livre qui va venir, le livre de Bamidbar, où effectivement, dans l'avant-dernière paracha également, la paracha de Pinchas, nous voyons que la paracha est à nouveau coupée en deux. Et là-bas aussi, nous avons la moitié de la paracha qui traite d'un Kohen, de Pinchas, de sa prêtrise qui lui est attribuée après son acte de bravoure, ainsi que du compte de l'ensemble des enfants d'Israël lors de la 40e année de leur présence dans le désert. Et puis la deuxième partie de la paracha traite des sacrifices des jours fériés. Donc nous avons deux parachiot qui se ressemblent beaucoup, l'une à la fin du livre de Vaïkra et l'autre à la fin du livre de Bamidbar, dans lesquelles nous avons tout d'abord des règles concernant des hommes saints, la sainteté de l'homme, et puis après nous avons des règles concernant les jours saints, c'est-à-dire la sainteté du temps. L'image ne serait pas complète si on ne voyait pas également la paracha à venir. À la fin du livre de Vaïkra, nous avons une paracha, Behar Bechukotai, qui traite de la sainteté de la terre, les lois relatives à la Shemitah, l'année sabbatique. Et à la fin du livre de Bamidbar, nous avons également une double paracha, Matot Mas'e, qui parle également de l'établissement en Eretz Israël, la sainteté du partage de la terre et tout ce qui s'ensuit. Et donc nous voyons en fait que chacun de ces deux livres, Vaïkra aussi bien que Bamidbar, termine par une triple sainteté. On commence par la sainteté de l'homme, en l'occurrence le Kohen. Dans le livre de Bamidbar, c'est un peu plus que ça, c'est la sainteté de tout Israël, puisqu'on va également compter les familles d'Israël. Et puis après, nous avons la sainteté des fêtes, du temps, aussi bien dans Emor que dans Vaïkra. Et puis après, nous avons la sainteté de la terre d'Israël, aussi bien que dans Vaïkra que dans Bamidbar. Nous avons donc ici une triple sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, la sainteté se manifeste dans toutes les catégories de l'être, aussi bien dans l'homme, dans le temps, que dans l'espace. Selon la célèbre division de tout ce qui est, de tout être, en trois catégories que l'on retrouve déjà dans le Sefer Yetzirah, le livre de la création, selon ce qu'on appelle dans la tradition Ashan. Ashan, la fumée, c'est les initiales de Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est-à-dire le cosmos, dans le sens de l'espace. Shana, l'année, c'est-à-dire le temps. Et Nefesh, l'âme, il s'agit donc de l'homme. Eh bien, il y a simplement ici probablement une allusion à la manière dont il faut comprendre chacune de ces saintetés. Entre la sainteté de l'homme et la sainteté de l'espace, nous trouvons la sainteté du temps. Alors, sans rentrer dans de trop grandes considérations sur la définition du temps, ce qui a fait couler beaucoup d'encre chez les philosophes et chez les physiciens depuis des milliers d'années, on pourrait dire que ce que suggère le texte, c'est que le temps serait la relation de l'homme au monde. C'est-à-dire entre l'homme, entre la vie intérieure, qui est la vie humaine, et le cosmos, qui est impersonnel, qui n'a pas de visage, eh bien, il y a le temps qui est la manière dont l'homme vit son existence dans l'espace. Et c'est pour ça que l'on commence par l'homme, on finit par l'espace, et au milieu, nous avons une sorte de tranche, la sainteté du temps. Donc ce sont ces deux premiers aspects sur les trois que nous allons étudier, la sainteté de l'homme d'abord, et puis la sainteté du temps par la suite. Étudions tout d'abord le premier verset, nous allons être frappés par... Et là, je suis obligé de faire la comparaison avec ce qui se passe dans la paracha de Pinchas, qui est la paracha parallèle dans le livre de Bamidbar. Voyons ce que dit Dieu à Moshe à propos des Kohanim. « Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moïse, « Emor el Kohanim bene Aharon, dit au Kohanim, fils d'Aharon, « Ve'amarta alehem, et tu leur diras, « Les nefesh lo yitama be'amav, ils ne doivent pas se souiller à une âme, sous-entendu d'un mort, chez leurs proches. » Maintenant, qu'est-ce qu'il doit leur dire au Kohanim? Je reprends ici la phrase. On voit qu'il y a ici un problème de syntaxe. Dis au Kohanim, fils d'Aaron, et tu leur diras. Mais il n'est pas dit ce qu'il faut leur dire la première fois. C'est-à-dire, il y aurait ici donc deux paroles. Une première parole au Kohanim, fils d'Aaron, qui manque dans le texte. La phrase est donc elliptique. Et puis après, vous avez Ve'amarta alehem, et tu leur diras de ne pas se souiller avec les morts. Eh bien, il faut lire donc ça autrement. C'est comme s'il était dit en fait, en vérité, « Emor el Kohanim, deux points, Bene Aharon, point d'exclamation. Dis au Kohanim, ô fils d'Aharon. » Expliquons ça autrement, ça veut donc dire que Moshe doit dire au Kohanim qu'ils sont les fils d'Aharon. Dis-leur qu'ils sont les fils d'Aharon. Et puisqu'ils sont les fils d'Aharon, eh bien ça les engage à des règles de sainteté. Donc on voit qu'ici, la source de la sainteté du Kohen est une source aristocratique. C'est-à-dire, c'est parce que nous sommes les descendants d'Aaron, qui était un personnage éminent, que nous avons un rôle particulier et des règles particulières. C'est comme ça que les Kohanim vont sentir ce que Moshe leur dit. Bien sûr qu'ils pouvaient savoir qu'ils étaient les fils d'Aaron. Ils le savaient très bien qu'ils étaient les fils d'Aaron. Il fallait leur expliquer que ça les engage à quelque chose. C'est-à-dire, si on leur dit, vous avez une responsabilité puisque vous êtes les fils d'Aaron. Surtout qu'il y a ici, quand même, en fait, une différence profonde avec ce qui est écrit dans le livre de Bamidbar. Dans le livre de Bamidbar, nous avons l'exemple, justement, d'un petit-fils d'Aaron, Pinchas, qui, pour une raison très bizarre, n'était pas Cohen. Il n'était pas Cohen parce qu'il n'a pas été oint comme Cohen lors de l'inauguration du Mishkan. Et donc, il aurait dû rester Lévi, et les autres descendants de Elazar et Itamar auraient été les Kohanim. Et puis, lorsqu'il pratique son acte de bravoure contre Cosbi et Zimri, alors Dieu lui accorde une faveur. Il devient Cohen. Et là-bas, on lui annonce, il va recevoir une prêtrise éternelle, Kehunat Olam. Et la raison pour laquelle il devient prêtre n'est pas parce qu'il est fils d'Aaron, justement, mais c'est parce qu'il a sauvé Israël. Et donc, nous avons ici une source tout à fait différente. La Kehuna, la prêtrise, aurait son origine dans la sainteté du peuple. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est démocratique dans le livre de Bamidbar et aristocratique dans le livre de Vaïkra. Mais c'est tout à fait normal, parce que nous sommes dans l'atmosphère, justement, du livre de Vaïkra, qui est le livre réservé, justement, si on peut dire, au Kohanim. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le Lévitique en français, ou bien Torah de Kohanim, la loi des Kohanim dans la tradition juive. Et donc, ici, on insiste justement sur le fait que le Kohen est séparé du reste du peuple. Et pourquoi c'est tellement important? C'est bien justement parce que on veut le séparer par son comportement du mode de vie des autres. Et cela est nécessaire. Si on veut vraiment aider les autres, il faut tout d'abord s'en séparer. C'est-à-dire cette idée généreuse qui est que pour aider tout le monde, il faut être comme tout le monde, n'est pas toujours efficace, justement. Il faut parfois être capable d'opérer une certaine distance entre celui que l'on veut aider et soi-même. Et donc il faut d'abord établir une coupure entre le Kohen et le peuple, pas par snobisme, loin de la Torah, une telle pensée, mais justement parce qu'il y a un principe, « En havush matir atzmo bibeta asurim ». Celui qui est prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de sa prison. Donc il faut une main extérieure. Et c'est pour ça justement que le Kohen va avoir un mode de vie totalement en dehors de la nature. Il ne va pas entrer en contact avec la mort. C'est-à-dire le refus de la mort, d'établir un rapport avec tout ce qui est dans la nature, va entraîner chez le Kohen une vision du monde un peu artificielle justement. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les difficultés de ce monde. Or, dans ce monde, nous avons au moins trois difficultés existentielles immédiates. Tout d'abord, il y a la mort. Les hommes meurent. Depuis, en tout cas, la faute du premier homme. Et puis, il y a également des échecs dans la vie. Il y a des situations d'échec. Par exemple, le divorce. Eh bien, le Kohen ne peut pas épouser une divorcée. Il ne doit pas, dans sa vie d'amour, avoir connu une personne qui a la marque de l'échec dans son existence. Et puis, il y a une troisième difficulté dans la vie, c'est la parnassa. Il faut bien vivre. Il faut avoir la vie professionnelle. Eh bien, justement, le Kohen vit des dîmes des autres. Il ne travaille pas. Donc on pourrait dire qu'il a une vie angélique, un peu. C'est-à-dire, le Kohen vit dans un monde totalement déconnecté, on pourrait-on dire, des vérités de la vie. Il ne connaît pas la difficulté. Et donc, il vit dans un monde d'où on peut voir les choses un peu de haut. Et c'est en cela qu'il peut aider les autres. Contrairement, par exemple, à ce que l'on peut trouver dans l'idéal sacerdotal du christianisme, où justement c'est le prêtre qui vient assister le mourant dans ses derniers moments. Eh bien là, c'est tout à fait différent. Il vit une vie, disons, harmonieuse, une vie libre. Et donc il peut accumuler dans son être une quantité de générosité intérieure qu'il est capable par la suite de donner aux autres. Ce qui explique en fait l'ensemble de ces lois que nous trouvons ici dans la paracha. Et les lois sont encore plus rigoureuses pour le Kohen Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre non seulement ne peut pas épouser une divorcée, mais il ne peut même pas épouser une veuve. Bien que la veuve, ce n'est pas vraiment le fruit d'un échec personnel dans son comportement, mais c'est quand même une tâche. Alors que le Kohen a le droit quand même d'entrer en contact avec ses proches immédiats lors de leur mort, le Kohen Gadol, lui, reste dans sa sainteté absolue. Même pour l'enterrement de ses parents, eh bien, il ne va pas en contact avec le mort. Et donc, on peut dire que c'est encore poussé encore plus loin. Et d'ailleurs, nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, dans le texte que nous lisons dans la Haftara, que viendra un temps où même les Kohanim, qui ne sont pas du statut de Kohen Gadol, n'épouseront des veuves que si elles sont veuves d'un Kohen. C'est-à-dire, c'est une manière de se rapprocher de la condition du Kohen Gadol. Évidemment, il y a la loi que nous voyons ici, par exemple, au verset He, au chapitre Kaf Aleph, verset He, 21:5, « Lo yikrechu korha berosham, ufe'at zekanam lo yigalecho » Ils ne se feront pas de tonsure et ne raseront pas les coins de leur barbe, ou vif saram, loïsretou sara tête, et ne se feront pas d'entaille dans leur chair. Tout ce qui était évidemment le comportement des prêtres chez les nations, et d'ailleurs on peut voir encore chez certains moines de différentes religions, ce genre de comportement. C'est-à-dire que la Torah ne pense pas qu'il y a dans une atteinte à l'intégrité physique quelque chose de saint. Au contraire, c'est la plénitude physique, c'est la pleine santé qui peut être le réceptacle de la sainteté. Et effectivement, il y a toute une série de défauts physiques qui empêchent le prêtre, non pas de manger la dîme, mais de servir dans le temple. C'est-à-dire une petite verrue, une inégalité dans les organes, et tant d'autres choses empêchent le Kohen d'être présent dans le Beit HaMikdash. Il est très surprenant de voir le texte de la Torah faire suivre les défauts physiques qui disqualifient le prêtre de la liste des défauts physiques qui disqualifient la bête que l'on va présenter en victime comme sacrifice. C'est-à-dire, on pourrait dire que, d'une certaine manière, le Kohen fait partie des des présents, des sacrifices présentés dans le temple. Évidemment, il n'est pas abattu, chas v'shalom, mais il fait partie justement de ce que l'on doit présenter devant Dieu. Or, on doit présenter devant Dieu un être entier, parfait, et donc également marié. C'est-à-dire, le mariage représente justement cette plénitude de la vie qui est une condition essentielle de la sainteté, contrairement à nouveau à ce que l'on peut trouver dans l'idéal monastique de différentes religions qui considèrent que le célibat est la condition de la sainteté, ce qui est profondément contraire à l'esprit de la Torah. Et je vous renvoie donc à l'histoire de Nadav et Avihu qui explique bien de quoi il s'agit. Et donc vous avez ici donc, toutes les règles des Kohanim. Nous ne rentrerons pas évidemment dans tout le détail, ça demanderait beaucoup plus que le temps qui nous est imparti. Et puis, de là, il y a une transition vers les règles des fêtes. Mais les règles des fêtes ne commencent pas simplement par la liste des fêtes. Ça commence au chapitre Kafbet par le verset Kafvav, c'est-à-dire chapitre 22, verset 26, « Vaidaber Hashem el Moshe les morts » Et Dieu s'adressa à Moïse en ces termes, « Shor o kesev o aes ki yivaled » un taureau ou un mouton ou une chèvre qui vient de naître, « Ve'aya shivat yamim tachat imo » sera d'abord 7 jours chez sa mère, « Umi yom hachemini ve'al ayiratze le korbaniche l'Hachem » ce n'est qu'après le huitième jour, ce n'est qu'à partir du huitième jour qu'il sera agréé comme sacrifice. C'est-à-dire, puisqu'on va nous parler des règles des fêtes, eh bien, on commence à nous expliquer quelles sont les bêtes qui peuvent être présentées dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que, à l'origine, l'essentiel de la fête ne se passe pas en famille, mais se passe dans le temple. Il y a évidemment une dérivée. La dérivée, c'est la fête vécue en famille. Mais, à l'origine, c'est dans le temple, en présentant les bêtes sur l'autel du Beth Amikdash. Et la toute première règle qu'on nous donne, justement, c'est que la bête ne peut pas être présentée comme sacrifice tant qu'elle n'a pas au moins l'âge de 8 jours. Et là, nous sommes introduits par là dans la sainteté du chiffre 7. Nous allons voir que le chiffre qui compte la sainteté du temps, c'est toujours le chiffre 7, comme les 7 jours de la création, le 7e jour de la semaine, le Shabbat. Et nous allons voir également qu'il y a 7 jours fériés supplémentaires dans l'année, qui sont d'une part le premier jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, et puis le jour de Shavuot, et puis le jour de Rosh Hashanah, et Yom Kippour, le premier jour de Sukkot, et Shemini Atzeret, qu'on appelle également Simchat Torah. Ce nous fait en tout 7 jours exactement, évidemment pas comme c'est aujourd'hui en Chutz La'aretz, où on rajoute des jours fériés, mais tel que ça se pratique encore de nos jours en Eretz Israël, et tel que le veut la Torah. C'est-à-dire 7 jours de sainteté au cours de l'année. C'est comme s'il y avait donc une sorte de Shabbat supplémentaire qui était dispersé dans les jours de l'année, et ceci pour des raisons historiques. C'est-à-dire que, alors que le Shabbat, et si l'on veut une sainteté absolue, la sainteté de la création du monde, c'est l'auteur du monde qui fait son Shabbat. Et donc l'homme n'a pas à intervenir dans la création de cette sainteté. Il y a par contre des jours de sainteté qui commémorent la rencontre entre Dieu et les hommes dans le cours de l'histoire. Et là nous avons quelque chose de très important, nous avons une série de sainteté qui sont créées par les hommes, enfin en tout cas par collaboration entre Dieu et les hommes. Alors pour bien rentrer dans le détail de cela, nous allons étudier le texte. Passons au chapitre Kaf Gimel, au verset Aleph. Vers chapitre 23, verset numéro 1. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu s'adressa à Moïse en ces termes. Daber el bene Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martha Alehem, et tu leur diras Moade Hashem asher tikriu otam mikre kodesh, Elehem Moadai. Alors on dit les temps, enfin Moadim veut dire en hébreu les rencontres de Dieu, que vous appellerez vous-même du nom de sainteté, voici les jours de rencontre. C'est-à-dire que Moed, en hébreu du mot Vaad, Vaad qui veut dire une réunion, c'est le moment dans le temps où il y a une réunion entre la créature et le créateur. Il y a une conception du temps donc extrêmement flexible. Nous sommes d'habitude dans ce qu'on appelle Zman. Zman, le temps. Or, le temps étant une création de la nature, enfin, étant un effet de la nature, eh bien, c'est ça qui nous détache de l'éternité. Dieu est éternel, et nous sommes dans le temps. Nous sommes dans ce que Bergson appelait la durée. C'est la manière dont les hommes vivent le monde. Nous le vivons dans la durée, tandis que Dieu, lui, est au-delà du temps. Mais il y a, devant Dieu, ce qu'on appelle « et ». « Et », ce qui veut dire « les moments ». En hébreu, « maintenant » se dit « ata ». Ce sont les 28 itim, les 28 moments absolus que nous trouvons dans le livre de Kohelet. « Et la ledet »,« et la mout », etc. Et puis il y a, entre le temps absolu, celui de Dieu, le temps idéal, et le temps des hommes, il y a des rencontres entre le temps de Dieu et le temps de l'homme. Eh bien, ces rencontres, ce sont les jours de fête, qu'on appelle Moed. Et ça commence tout d'abord par le temps dont l'initiative vient du Créateur. C'est le temps du Shabbat. Sheshet yamim te'aseh melacha. Pendant 6 jours, on fera des travaux. Uvayom hashivi'i Shabbat Shabbaton mikra kodesh. Et le 7e jour, c'est le jour où on se repose. Kol melacha lo ta'asu. C'est un jour saint, vous ne ferez pas de labeur. Shabbat il hashem kol moshvotechem. Et ce temps est un temps absolu. C'est ce qu'on appelle Kevi'a Vekaima. C'est la raison pour laquelle les rabbins n'ont pas le pouvoir, ni les peuples juifs n'ont le pouvoir, de déplacer le jour du Shabbat. Le Shabbat tombe toujours le 7e jour. Il n'y a rien à faire. Il y a quand même une exception à cela. C'est si quelqu'un est perdu dans le désert, dans un lieu où il n'a personne pour interroger, et il ne se souvient pas quel est le jour de la semaine où il se trouve, alors la règle talmudique est qu'il compte 6 jours et fait un Shabbat, son Shabbat à lui, parce qu'on pourrait dire, parce que c'est la Gemara, c'est comme si le monde était créé à nouveau pour lui. Mais pour nous qui vivons dans l'histoire, eh bien c'est tous les 7 jours qu'il y a le Shabbat. Et puis après vient une nouvelle série de temps, ce sont les 7 jours que nous avons mentionnés, et les Moadé Hashem Mikra et Kodesh, au verset 4, hein, verset d'Alef, et les Moadé Hashem Mikra et Kodesh, et Shatikru Otam et Moadam, voici les jours de rencontre avec Dieu qui sont des moments saints que vous annoncerez dans leur temps. Et alors là, nous avons une règle importante. Le premier jour de Pessah tombe toujours le 15e du mois de Nissan. D'accord. Et le jour du sacrifice, le 14e jour du mois de Nissan. Très bien. Mais quand est-ce que va tomber le mois de Nissan? Alors là, ça dépend. Est-ce que les rabbins vont ajouter un 13e mois ou ne pas l'ajouter? Et donc on peut déplacer le mois de Nissan de 30 jours. De même, est-ce que le mois précédent aura 30 jours ou 29 jours? C'est également une décision du tribunal, en tout cas à l'époque où Israël était sur sa terre. Et donc, il faut donc décider quel sera le moment où la Torah va nous interdire de manger du Hametz et va nous ordonner de faire le sacrifice de Pessah. Et ça dépend des hommes. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose d'extrêmement surprenant, d'inouï. C'est que l'homme participe à l'œuvre de Dieu. Il dit au Créateur du monde quel est le moment où il doit insuffler son flux de sainteté dans son monde. Il doit y avoir bien une raison à cela. Eh bien, la raison est très simple. C'est que les fêtes dont parle la Torah sont des fêtes qui commémorent des événements historiques. Des événements historiques où les hommes ont participé. De quel événement parle-t-on? De la sortie d'Égypte, évidemment. Or, la sortie d'Égypte a été faite, disons, à deux auteurs. Le premier auteur, c'est le Créateur du monde. 95% du travail, 90%, je ne sais pas comment est-ce qu'on mesure ça, a été fait par Dieu. C'est lui qui a envoyé les plaies d'Égypte, c'est lui qui a envoyé son prophète Moïse, c'est lui qui a ordonné aux enfants d'Israël de sortir. Tout cela, donc, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a une chose que les hommes ont fait et que Dieu ne pouvait pas faire à leur place. C'est de commencer à marcher. C'est-à-dire, il a fallu que les enfants d'Israël marchent. Ce sont les pieds des enfants d'Israël qui ont créé l'événement. Et donc, ils ont une part. Et donc, ils ont des droits sur ce temps. Ils ont le droit de fixer le moment, enfin, d'avoir une certaine influence sur le temps. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a des travaux qui sont interdits le Shabbat, que l'on peut faire le jour de Yom Tov. Alors que le jour du Shabbat, les 39 travaux sont interdits. Le jour de Yom Tov, on a le droit de faire la cuisine. Et puis on a le droit de porter, de déplacer du domaine public au domaine privé et inversement. C'est parce qu'on peut dire la même sainteté que celle du Shabbat continue à travers nous, sans pourtant être troublée. C'est-à-dire, alors que dans le jour du Shabbat, pour appréhender, pour s'imprégner de la sainteté du jour, il faut cesser d'être un homme pour laisser le Créateur agir, parce que c'est son moment à lui, eh bien, les jours de fête, au contraire, l'homme fait partie, est un peu créateur de la sainteté de ce temps, donc il n'est pas obligé d'interrompre tout travail. D'accord ? C'est très important de voir, donc il y a une sorte de participation, ce qu'on appelle dans la prière, « Mekadesh Israël ve'azemanim », Dieu sanctifie Israël et les temps. C'est-à-dire, c'est à travers Israël que Dieu sanctifie le temps. Donc il y a ici, on pourrait dire, un grand chidouche, une innovation. Cette innovation implique qu'il doit y avoir quand même une sorte d'anneau qui va relier la sainteté du Shabbat à la sainteté des fêtes. Parce que on pourrait effectivement impliquer un divorce total entre les deux saintetés. La sainteté amenée par le Créateur qui crée le Shabbat, et puis la sainteté des fêtes qui vient des hommes. Et c'est effectivement la thèse sadducéenne. Les sadducéens à l'époque, les tzedoukim à l'époque du deuxième temple, n'admettaient pas que l'on puisse appeler le premier jour de Pessah du nom de Shabbat. Parce qu'ils disaient, le Shabbat ça vient de Dieu. Et puis, Pessah, ça vient de la nation. Il n'y a pas de sainteté dans l'être national d'Israël. C'est-à-dire, c'était, on peut dire, d'une certaine manière, des fidèles de la Torah absolue. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'il y a une sainteté dans ce que font les Hébreux. Par contre, les Pérouchim, les pharisiens, nos maîtres de l'époque du deuxième temple, eux considéraient que lorsque la Torah parle de Shabbat dans le texte suivant, c'est au verset Tetvav, Usfartem lachem imachorat Shabbat, et vous compterez à partir du lendemain du Shabbat, que le mot Shabbat ici désigne le premier jour de Pessah. Quelle est la logique intérieure de ça? Bien, le Rav Kook explique tout simplement qu'il est impossible que le premier des jours de Yom Tov ne soit pas appelé Shabbat. Il y a un rapport entre la sainteté de Dieu et la sainteté d'Israël. Et donc, c'est obligatoire que ce soit le premier jour de Pessah. Parce que le premier jour de Pessah ne peut pas ne pas être appelé Shabbat. D'ailleurs, une petite remarque à ce propos. La première règle de Shabbat qui a été donnée historiquement, c'est lors de la manne, lorsque la manne tombait dans le désert, que Dieu dit « Al yetze ish mekomo bayom ha-shivi'i » que personne ne sorte de son lieu le septième jour. Or, historiquement, la première règle qui a été donnée lors du premier Pessah de l'histoire, c'était de ne pas sortir de la maison. Et vous ne sortirez pas de la porte de votre maison jusqu'au matin. Et donc il y a une ressemblance entre le premier Shabbat et le premier Pessah. Et puis après vous avez donc le septième jour de Pessah qui commémore la traversée de la mer Rouge, et puis Shavuot qui commémore le don de la Torah, et puis le jour de Kippour qui commémore le don de la Torah une deuxième fois lorsque les deuxième table de la loi ont été données, et le jour de Rosh Hashanah, qui lui semble ne se souvenir de rien. Eh bien non, justement, il est le début de la sortie d'Égypte. Le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit que c'est à Rosh Hashanah que la servitude a cessé en Égypte. On peut dire que Rosh Hashanah était le premier des jours de notre libération, tandis que Kippour était le dernier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc ça commence par Rosh Hashanah, ça continue par Pessah et Shavuot, et ça finit par Kippour. C'est de cette manière-là qu'il faut voir l'historique de ces fêtes-là. Et puis après, nous avons la fête de Sukkot, qui commémore à nouveau la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte n'a pas eu lieu à Sukkot, elle a eu lieu à Pessah. Eh bien, c'est qu'elle aurait dû avoir lieu à Sukkot. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte aurait dû être le temps où Israël, dans sa libération, entraîne la libération de l'ensemble de l'humanité. Et donc ça aurait dû se faire au temps de Tishri, qui est le temps, qui compte le temps selon les nations, selon le texte du Talmud. Et d'ailleurs, on voit très bien, lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, on dit « Vaïsro, venez Israël, mais Ramsès, Sukkota ». Les enfants d'Israël sortirent de la ville de Ramsès vers Sukkot, le lieu qu'on appelle Sukkot, où ils ont effectivement construit des Sukkot, des cabanes. Et donc la fête de Soukhot aurait dû avoir lieu à Pessah. Et puis comme il y a tout un problème, c'est que l'humanité n'a pas été sauvée en même temps que nous, eh bien une partie de la commémoration de la fête de Pessah est déplacée vers le septième mois. Et puis après vous avez le huitième jour, ben, c'est le huitième jour, Simchat Torah, c'est la fête du temps à venir, la fête du Olam Haba, le temps où il n'y aura plus de problème. À nouveau, là aussi, nous avons un cycle assez surprenant. Les fêtes d'Israël sont des fêtes joyeuses, mais elles ont toujours un problème. La fête de Pessah est une belle fête, mais on ne peut pas manger de pain. Ce n'est pas une fête. Et puis après, vous avez la fête de Shavuot, où on peut manger du pain, mais on ne dort pas de la nuit. Après, vous avez Rosh Hashanah, où on peut manger du pain, on peut dormir la nuit, mais on tremble toute la journée, à cause du jugement. Et puis après, on arrive à Kippour, on ne mange pas. À Soukhot, ça devient sympathique. On peut dormir, on peut manger du pain, on ne tremble pas, mais on est jeté en dehors de la maison. On n'est pas chez soi. Il n'y a finalement qu'une seule fête qui est l'expression d'un monde parfait, c'est la fête de Simchat Torah, où on peut dormir, on peut manger du pain, on ne tremble pas, on est chez soi à la maison. On est tellement heureux qu'on danse toute la journée. Vous voyez ? C'est ça, disons, l'ensemble des fêtes. Dans l'histoire, l'homme participe de plus en plus à sa libération, à l'intégration de la sainteté dans sa vie. Et ça se fait au niveau collectif d'Israël, tout d'abord par la fête de Pourim, qui est venue plus tard. La fête de Pourim est une fête qui a été réalisée par des hommes. Mais par des hommes en dehors d'Eretz Israël, et puis c'était finalement quand même deux personnes dans un palais. Le reste du peuple n'a fait que jeûner, mais finalement c'était Mordechai et Esther qui ont fait tout le travail. En tout cas, c'est quand même suffisant pour qu'à Pourim, on ait le droit de tout faire, sauf deux travaux. On ne plante pas d'arbres à Pourim, on ne construit pas de maisons à Pourim. Parce que construire des maisons et planter des arbres, ça se fait en Eretz Israël. Or, c'était en dehors d'Eretz Israël. Donc, quelque chose n'est pas encore totalement, disons, intégré dans l'homme, dans la sainteté de ce jour. Et puis, vous avez plus tard la fête de Hanouka, qui, elle, a été faite par la guerre des Maccabim, les Maccabées qui se sont révoltés contre les Grecs. Effectivement, à Hanouka, tous les travaux sont permis. Sauf pour les femmes. On ne travaille pas pendant la demi-heure où les lumières sont allumées. Parce qu'à Hanouka, à part la victoire militaire, il y a eu également un miracle surnaturel, le miracle de la fiole d'huile. Et ça, ça a été fait sans l'intervention des hommes. Ça a été fait par Dieu. Et donc là, on fait une sorte de petit Shabbat. Pourquoi seulement les femmes? Parce que ce sont les femmes qui ne font pas la guerre. Et puis après, vous avez dans l'histoire, encore plus tard, le jour de Yom HaAtzmaut, où la libération d'Israël, qui est faite entièrement par Dieu, est faite entièrement par les hommes. Et donc, tous les travaux sont autorisés à Yom HaAtzmaut. On peut dire que l'aboutissement des jours de fête, c'est le moment où la sainteté arrive à son indépendance. C'est le jour de l'indépendance de la sainteté du Shabbat qui, traversant l'histoire, devient le jour de Yom HaAtzmaut. Et il était impossible que le texte de la Torah n'y fasse pas allusion. Nous allons voir ça tout de suite. Au chapitre Kaf Dalet, vous avez des règles qui apparaissent brusquement. Donc, tout d'abord, au dernier verset du chapitre Kaf Gimel, le verset même Dalet, le verset donc 44 du chapitre 23, « Vaïdaber Moshe et Moadé Hachem et Bené Israël ». Et Moshe enseigna les fêtes de Dieu aux enfants d'Israël. C'est-à-dire quoi? Il leur a enseigné les fêtes de Dieu. C'est une évidence que quand Dieu disait quelque chose à Moshe, ben il le disait après. Ça veut dire qu'il leur a enseigné comment faire de nouvelles fêtes. Et comment il l'a fait? Eh bien, regardez, vous avez tout d'abord, au chapitre Kaf Dalet, au verset Bet, « Tzav et Bené Israël vikru et l'Echashem et Zahidzar ». Dit aux enfants d'Israël de prendre de l'huile pure, Katit la mort pour l'éclairage de la menorah. Alors, on comprend qu'il s'agit d'une allusion à la fête de Hanouka. Et puis après, vous avez au verset He, Vela karta solet veafita shetem aisre chalot, et là, on nous dit de faire les 12 pains de proposition. Les 12 pains de proposition, c'est une évidence, c'est évidemment une allusion à la fête de Pourim, qui se fait par un festin, une table. Et ce sont les 12 pains présentés sur la table dans le Beit HaMikdash. Et là, elles sont faites de semoule. C'est peut-être dire pour cela qu'il y a une coutume chez les Juifs d'Afrique du Nord de faire des gâteaux à la semoule, le mekroud, etc., que l'on fait le jour de Pourim. Et il y en a, et puis c'est 12 pains, parce que c'était le 12e mois que ça s'est fait justement, le mois de Hadar, qui est le mois de Pourim. Et puis après vous arrivez au verset Yud, il y a une allusion donc évidemment au Yom HaAtzmaut. Vayetse ben Aisha Israélite, vous avez ici le problème du blasphémateur, le fils d'une femme d'Israël qui est à la fois fils d'un homme égyptien et qui ne trouve pas sa place dans le campement et qui blasphème et qui se fait lapider. C'est très intéressant cette identité, l'identité de quelqu'un qui ne sait pas s'il est égyptien ou hébreu. Il est d'une mère hébraïque, mais son père est égyptien. C'est pas sans nous rappeler quelqu'un que nous connaissons bien dans la Torah, qui avait un problème d'identité pour savoir s'il était égyptien ou hébreu, qui a dû décider de cela, c'était Moshe lui-même. Et ça va même plus loin, parce que selon la tradition, le père de ce blasphémateur était l'égyptien que Moshe a tué. Et on amène le blasphémateur chez Moshe, on lui dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Et Moshe dit « je ne sais pas ». Et c'est parce que Moshe a reconnu dans ce blasphémateur quelqu'un qui lui ressemblait peut-être. Il s'est dit, c'est vrai qu'il blasphème, mais c'est peut-être le Mashiach. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que, il savait très bien que pour amener la libération d'Israël, il faut grandir dans un cadre culturel extérieur à celui d'Israël. Dans la maison du Pharaon, à Paris et à Vienne, faire un peu de journalisme, faire un peu de sciences politiques, pour pouvoir penser l'État juif. Alors, évidemment, quand on grandit entre deux cultures, alors on ne sait pas parler. Effectivement, Moshe avait un problème dans son expression. Il disait « je suis lourd de parole ». C'est-à-dire, je dois leur expliquer en allemand leur tradition de yiddish. C'est-à-dire, je dois parler avec l'accent égyptien pour leur dire que je suis venu les sauver pour réaliser la promesse de leurs ancêtres hébreux. Alors évidemment, ça posait un problème de langage. C'est effectivement le problème du langage de la génération de la Géoula, de la libération d'Israël. Et donc Moshe s'était demandé si effectivement ce blasphémateur n'était pas quelque chose qui lui ressemblait. Donc il y a eu aussi l'intuition d'une troisième fête, la fête de Yom HaAtzmaut, qui se fait de manière miraculeuse, on peut le dire, à travers ce qu'on appelle la chutzpah, l'effronterie de la génération messianique. Effectivement, nos maîtres déjà dans le Talmud nous ont dit que la libération d'Israël se ferait par une génération qui serait effrontée contre la Torah, qui serait révoltée contre la Torah. Et il y a effectivement ici cet aspect. Faisons une dernière petite remarque, c'est que les trois fêtes ont rapport à quelque chose de cultuel. La fête de Hanouka trouve son allusion dans la menorah du Beit HaMikdash, la fête de Pourim dans la table des pains de proposition dans le Beit HaMikdash, et également la lapidation qui a été faite finalement du blasphémateur, c'est fait d'une manière assez surprenante. Les enfants d'Israël devaient poser leurs mains sur le blasphémateur, à la manière dont on le fait dans un sacrifice. C'est écrit au verset Yuddalet, verset 14, « Vesamechou kolashomim et yedem al roshou ». Et donc il y a ici également quelque chose de sacrificiel, de manière surprenante, dans cette sanction faite contre le blasphémateur. Et donc nous avons ici une allusion aux trois fêtes de l'histoire qui vont compléter les fêtes de la Torah, la fête de Sukkot complétée par Hanouka, la fête de Shavuot où la Torah a été donnée et complétée par Pourim où la Torah a été à nouveau acceptée, et la fête de Pessah qui est la libération d'Israël complétée par la fête de Yom HaAtzmaout, Dieu bénisse, de nos jours. Shalom.